Jazz Ride au micro de Julie. Virée nocturne en voiture avec un musicien de jazz. À la sortie d'un concert, on le ramène chez lui. C'est Paris by Night ce soir avec Laurent Courtaillac. Bonjour Laurent, bonsoir.
Bonsoir
Laurent, parce qu'il est quand même 3h24.
Ouais, mais c'est pas vraiment un problème.
Et on est venu t'écouter et aussi te chercher au Sunside, où tu joues tous les samedis soirs, pour des nuits jazz. Et là, on va te ramener chez toi en voiture et en même temps, on va faire un petit tour de Paris. Et on va aussi te suivre, on va suivre un peu tes inspirations parisiennes en voiture. C'est Jazz Ride, donc.
Cool. Oui, moi, je joue en ce moment chaque samedi soir au Sunside. Et c'est toujours des hommages cinématographiques. C'est un hommage à un film et à un compositeur qui a signé la musique de ce film. Et donc c'est à minuit, et à chaque fois j'ai un invité différent, c'est en trio avec un invité. Donc vous m'avez demandé de faire un petit tour de Paris, donc c'est un petit peu, moi c'est la ville que j'aime par-dessus tout, et j'habite ici, et je ne quitterai plus Paris, j'y habite ailleurs, aux États-Unis, etc., mais je vais rester à Paris. Et donc on va passer devant le premier club à Paris pour moi où tout a commencé, c'est le Petit Opportun.
Donc là, on tourne. Là, on est en fait dans le quartier des Halles,
voilà.
Puisqu'on est juste venu du Sunside, et on va effectivement, on roule, et on va passer donc devant le Petit Opportun. Et c'est un club.
Alors c'était vraiment un club mythique. C'était un club qui avait connu vraiment l'âge d'or. C'était Bernard Rabault qui tenait ce club. Les gens qui ont connu Paris à cette époque-là. Moi, je suis arrivé. Quand j'avais 21 ans, ça devait être en 98 quand je suis arrivé à Paris, en 1998. Et en fait, c'était vraiment un club légendaire. Tous les grands musiciens de jazz comme Tommy Flanagan, Art Farmer, Sonny Stitt, Charlie Rose, tous ces gens-là avaient joué dans ce club. Et il y avait une fréquentation qui était un petit peu moindre. Et on est arrivé toute une nouvelle génération. Et la nouvelle génération, on était trois pianistes. Il y avait Mathis Trottignon, Emmanuel Lupré, moi, il y avait Clovis Nicolas. Il y avait Olivier Temim qui était là tout à l'heure. Il y avait Vincent Artaud, il y avait Pierrick Pedron, il y avait Alexandre Tassel, Mourad Benamou, etc. Et donc, on était toute une génération de jeunes musiciens et on voulait vraiment, vraiment jouer. Et on habitait un peu tous ensemble d'ailleurs. On avait un appartement en rue Rochechouart, c'était un 100 mètres carrés, où on habitait à 5 ou 6, mais il y avait tous les musiciens qui débarquaient. Donc, on était toujours... Et on sortait tous les soirs en bande. Et c'était une époque où les clubs de jazz ouvraient le concert commençait vers 10h30, 11h et il y avait une jam session à la fin de chaque concert, chaque soir.
D'accord.
Donc nous on arrivait, il y avait carrément deux orchestres quoi, qui arrivaient quoi. Et donc on jammait tout le temps et à un moment au Sunside, le Duc il nous disait et au Petit Top comme c'était une cave en bas et que c'était indépendant avec le bar qui était au-dessus au rez-de-chaussée, la cave était bien entendu au-dessus du bar. On s'est tous retrouvés là et on s'est mis à investir le lieu, ce qui a donné les nuits blanches du Petit Opportun.
Wow.
Et c'était vraiment des nuits blanches parce qu'on commençait à jouer vers 10h30, 11h. Et en général, il y avait la personne qui était barman à cette époque-là, Cathy, je me souviens, qui nous ramenait tout le temps les croissants à 8h du mat. Et on venait juste de finir de jouer, et après on allait boire des coups, et on vivait comme ça.
Donc t'es vraiment un musicien de la nuit, en fait, depuis toujours.
J'ai vraiment bien, bien, bien connu la nuit, en effet. Ensuite, on va se diriger vers l'île Saint-Louis.
Okay.
Parce que ensuite, je suis devenu pianiste d'un club qui n'existe plus aujourd'hui. Alors, il y en a des nouveaux, mais il y en a qui ont disparu.
Oui.
Et c'était aussi une époque où il y avait la programmation des clubs de jazz. Alors, ça revient au Sunside, par exemple. Mais on était programmé pendant 3-4 jours ou la semaine.
Mm-hmm. Les résidences
On n'appelait même pas ça des résidences. C'était genre, les musiciens de club jouaient, ils étaient programmés une semaine.
D'accord.
Voilà. Je pense qu'il y avait aussi moins de musiciens. Les musiciens faisaient peut-être moins de disques. Ils travaillaient moins sur leur image, etc. Puisqu'il n'y avait pas encore tous les réseaux sociaux qui ont permis de favoriser le développement de la carrière de chacun. Et donc, moi, je jouais avec Xavier Richardot, Yves Bouqui et plein de gens, justement dans ce club au Frampino. Et j'y jouais 4 soirs par semaine. Ce qui fait que tous les soirs, quand je me garais sur, j'avais une voiture à ce moment-là et je me garais sur l'île Saint-Louis. Et je me souviens que le nombre de fois, à force de me garer toujours sur cette île, où je passais des heures à chercher ma voiture en sortant du concert, c'était un peu... Parce que c'est comme si j'y habitais, en fait.
Bon, l'île n'est pas très grande.
Non, mais c'est dur de trouver de la place. Et quand on ne sent plus où est-ce qu'on est, ouais, c'est vraiment dur, quoi.
Alors ça, c'était finalement des souvenirs importants pour toi.
Ça, c'était un souvenir important parce que les clubs de jazz, pour un musicien de ma génération... Alors, déjà, moi, j'avais l'avantage. Je jouais là-bas beaucoup aussi avec Luigi Trussardi, qui était mon maître de musique et qui m'a beaucoup enseigné. Mais c'était j'avais beaucoup de chance parce que c'était un grand musicien qui avait joué avec Dizzy Gillespie, qui avait joué avec... Donald Byrd, qui avait joué avec Eric Dolphy, qui avait joué avec tous mes héros, en réalité.
Oui, c'était ma question, tes idoles à cette époque.
Mes idoles, c'était déjà Bud Powell, Thelonious Monk. Ça n'a jamais vraiment changé. Mm-hmm. Ça n'a jamais vraiment changé. Et c'était quand j'étais pianiste au Frampino que j'ai commencé à aller à la classe de Barry Harris et donner des classes en Hollande, des classes en Italie. Et on peut pas tourner là.
Barry Harris, donc ce pianiste dont tu as parlé d'ailleurs ce soir pendant le concert.
Voilà, qui est décédé il y a quelque temps, avec qui j'ai étudié pendant 8 ou 9 ans. Et en fait, c'est intéressant parce que l'image que je prends toujours quand je parle de cette musique bebop, c'est un langage vraiment hermétique. C'est une musique très sophistiquée, très compliquée. Et évidemment, les jeunes musiciens, quand on commence à jouer, il n'y a pas vraiment de partition de tout ça. Et en général, tout ce qui est sur les partitions, c'est pas exact. C'est pas très intéressant. Et donc, on a les disques. Et alors, les disques, c'est fantastique, mais aussi, le disque, c'est comme un poème. C'est pas comme si on avait le livre avec la grammaire, la syntaxe, la façon de prononcer, etc., etc. Et donc, oui. Voilà, et le Frampino, c'était ici, donc au bout, voilà. Là, on est au bout, je vous situe, on est au bout du pont Marie.
Exactement.
Et donc, voilà.
Sur le quai Bourbon.
Voilà, exactement, quai de Bourbon. Et donc, Barry Harris, il m'a vraiment expliqué tout le concept, parce que c'est vraiment lui qui a conceptualisé cette musique et qui a continué à la transmettre, puisqu'évidemment, à partir des années 60, cette musique était déjà un peu passée. Charlie Parker, il est mort en 1955 et les bebopers étaient moins en vogue.
Et toi, cette passion pour le bebop, ça vient d'où en fait?
J'ai commencé le piano en jouant du ragtime. Quand j'avais 17 ans, j'ai commencé très tardivement. Donc j'étais complètement autodidacte. J'avais pas joué de piano.
Oui. Donc t'as pas pris de cours
Non. Et j'ai appris avec mes disques. Donc au début, j'ai appris avec mes disques de Scott Joplin. Et puis ensuite... j'ai pris quelques cours de piano ici et là, mais rien de bien particulier. Et puis j'ai acheté des disques, et donc évidemment je suis fou de disques. D'ailleurs maintenant j'ai une maison de disques qui s'appelle LP345, où on a sorti enregistré chez moi, parce que ça c'est encore autre chose qui se passe à la maison. On a enregistré René Treger chez moi, on a enregistré le premier disque de Kurt Rosenwinkel en piano solo. Mais ça, j'y viendrai tout à l'heure, l'aventure qui se passe à la maison. Et donc voilà, donc tout ça pour dire que c'était quand j'étais justement sur les Saint-Louis, c'était toute cette époque où j'étudiais la musique, mais vraiment hein, 10 heures par jour, je faisais que ça.
Ouais, un fou de musique.
Je faisais que ça, et ça a duré des années. Hein. J'ai vraiment beaucoup beaucoup étudié. Et puis ensuite j'y suis allé beaucoup, etc., etc. Et puis ensuite j'ai pris un peu de... J'ai pas pris de distance parce que je l'écoute tous les jours et je travaille ce qu'il m'a enseigné tous les jours. Mais on a besoin de se retrouver un peu parce que il est toujours d'ailleurs immense que on n'existe pas en face d'un tel musicien. On n'arrive pas à jouer un autre accord que le sien, etc., etc. Donc j'ai eu ce besoin de
t'émanciper un peu de...
Oui, de m'émanciper, mais j'espère avec intelligence, c'est-à-dire sans faire le meurtre du père ou quoi que ce soit. C'était simplement... C'est simplement, j'ai besoin de respirer. Et puis, je jouais beaucoup. Je jouais tous les soirs. C'était une époque à Paris où, maintenant, pour les jeunes musiciens, c'est plus compliqué parce que c'est vrai qu'il faut une actualité. Les réseaux sociaux ont fait que que tout s'est accéléré dans la carrière des gens. Ma génération, je pense que ça doit être la dernière, avait vraiment le temps de faire son apprentissage.
Est-ce que tu as la nostalgie un peu de cette
pas
époque?
Du tout.
Non.
Moi, je ne suis pas quelqu'un de nostalgique. Mm. Du tout. Mais par contre, je reconnais la chance que j'ai eue.
Ouais.
Et j'ai eu la chance d'avoir pu passer toutes ces années à ne pas me préoccuper de présenter ma musique sur disque, etc., etc., et de faire qu'étudier, travailler, etc., et puis jouer tous les soirs. Et donc, je jouais tous les soirs, et tous les soirs, quand j'avais fini de jouer, je courais écouter Alain Jean-Marie. Parce qu'Alain Jean-Marie, il jouait tous les soirs. Et donc...
Il jouait où, lui ?
Alors, il jouait, moi, j'ai peut-être pas encore ce niveau-là, il était tout le temps au Duc, tout le temps au Sunside... C'est après, j'ai fait des progrès, bien entendu, et donc je suis devenu pianiste maison du Duc à un moment. J'étais dans l'orchestre de Xavier Richardot, justement, on était en alternance avec Alain Jean-Marie. Et c'était l'orchestre du Duc. Et puis ensuite, je suis passé au Sunside et j'ai commencé à jouer tous les dimanches au Sunside, deux fois par dimanche, l'après-midi et le soir, avec mon trio que j'avais à l'époque, qui était composé de Philippe Soara et Mathias Salaman. Et puis tout le reste de la semaine, on jouait tous les soirs et j'allais écouter Alain et tout ça. Donc il y avait.
Donc Alain Jean-Marie. C'est aussi une personnalité.
Voilà, ça c'est. Voilà, moi je considère que j'ai eu, en tant que musicien instrumentiste, trois maîtres de musique. C'est-à-dire Luigi Trussardi, tout d'abord, mm-hmm. Alain Jean-Marie et Barry Harris. Et puis j'ai eu une maîtresse de musique qui m'a appris ce que c'était qu'une chanson, avec qui j'ai joué pendant 5 ans en duo, qui s'appelle Elisabeth Contomanou,
ah, oui.
Et qui est la plus grande chanteuse avec qui j'ai pu faire de la musique. Et elle m'a vraiment... Et là aussi, c'était un vrai apprentissage. Mm-hmm. Là, j'ai appris ce que ça voulait dire que jouer une chanson, la ressentir, c'est-à-dire accompagner les mots et pas accompagner les notes.
Donc accompagner le chant aussi, ça c'est...
Oui, et puis ce qu'elle dit. Mm-hmm. C'est-à-dire que tant qu'elle n'a pas dit le mot, il n'y a pas l'accord.
Ouais. C'est ce que tu fais aujourd'hui.
Et c'est ce que
les jeunes chanteuses.
Voilà. Et puis j'ai la chance d'avoir des chanteuses et chanteurs talentueux. Là, ce soir, je joue avec Estelle Perrault qui chante vraiment formidablement et qui a cette intention là, mmh. auquel je suis très sensible, c'est-à-dire qu'elle vit la chanson qu'elle joue. Et parce que sinon, j'ai rien accompagné. Sinon, j'accompagne un saxophoniste.
Et c'est bien aussi.
Ah oui, mais j'accompagne beaucoup Dimitri Baevski, Fabien, de ces soirées, Fabien Marie, Baptiste Herbin, qui est venu beaucoup parce qu'il y a beaucoup de musiciens qui sont venus étudier à la maison aussi.
Alors là, on passe justement devant le Duc, juste qui est à gauche.
Donc devant le Duc des Lombards, ou dans un endroit aussi où j'ai joué beaucoup, mais où je joue bien entendu un petit peu moins là parce que je suis là par exemple sous mon nom, je joue 8 fois, je crois, ce mois-ci au Sunside.
Ah oui, quand même, oui.
Donc voilà, je suis un peu...
Dans ta période Sunside.
Voilà, mais ça fait longtemps qu'elle dure. Hein, je suis pianiste, régulier, résidence dans ce club, depuis 12 ans, je crois. Mm. 12-13 ans, un truc comme ça.
Oui, ça c'est aussi la rue des Lombards, toute la rue des Lombards.
C'est toute la rue des Lombards. Et donc voilà, puis tout, vraiment tous les amis que je fréquente encore tout le temps, comme Pierrick Pedron, Xavier Richardot qui m'avait beaucoup engagé, employé, qui jouait ce soir d'ailleurs au Duc. Et donc voilà, c'est toute une famille. Et puis ce qui me rend très enthousiaste par rapport à cette musique-là, c'est qu'elle ne meurt jamais. À chaque fois, je me disais, tiens, voilà, parce qu'on avait été vraiment une génération, nous, oui. la génération de Nuit Blanche. Et il y a toujours une génération qui revient et qui ravive. Après, il y a Hugo Lippi qui est arrivé avec Fabien Marie. Et puis là, par exemple, aujourd'hui, moi, je joue avec des musiciens beaucoup plus jeunes. Je joue avec ce contrebassiste qui s'appelle Alex Gilson. Et puis, je joue avec Romain Saron, qui fait partie de toute la bande. Ça, c'est toute une génération. Fred Nardin, John Boutelier. Mmh. Et avec Fred Nardin, nous, on se voit tout le temps. Et donc, voilà, il y a vraiment cette chose belle de transmission.
Quel regard tu as justement sur la jeune génération par rapport à la tienne quand tu étais plus jeune justement?
C'est toujours difficile de comparer, mais moi je vois pas de rupture. C'est-à-dire que il y aurait une rupture s'il n'y avait pas l'amour du jazz. Et il se trouve qu'il y a l'amour du jazz, donc il n'y a pas la rupture. Ça c'est, il n'y a pas de divorce dans cette musique.
Est-ce que le jazz change quand même?
Il va va et vient. C'est-à-dire qu'il y a des courants. Il y a eu un moment. Moi, c'est vrai que je suis vraiment un musicien bebop.
C'est ça.
Et enfin, c'est mon langage. Évidemment, quand je suis en train de jouer, je suis pas en train de me dire que je joue bebop. C'est fini, ça. Je joue du jazz. Et puis j'ai beaucoup d'influence. J'ai passé 2 ans à étudier uniquement la musique de Duke Ellington. Mais toute cette jeune génération. Après, chacun s'adapte. Même moi, je m'adapte. Maintenant, j'ai Facebook, j'ai Instagram, j'ai toutes ces choses-là. C'est-à-dire, mais il y a cette chose. C'est à un moment, si on met un disque de Charlie Parker, ou Monk, ou Coltrane, ou je sais pas qui, il y a cette lueur dans chaque regard. Et c'est une flamme, c'est un feu sacré. C'est vraiment la lumière sacrée qui s'éteint jamais, cette musique.
C'est beau ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'il y a ce fil, en fait, finalement, de génération en génération. Ah ouais,
et puis cette lumière, bah, elle passe, c'est un flambeau, et donc on se passe le flambeau. Donc on transmet, donc moi par exemple, beaucoup, beaucoup de musiciens, parce que là on va arriver vers chez moi, j'habite Canal Saint-Martin. J'ai un appartement particulier, c'est-à-dire que c'est un appartement qui est quand même assez dédié à la musique de jazz.
C'est-à-dire, alors, de quelle manière il est dédié à la musique de jazz?
Alors,
qu'est-ce qu'il y a dans cet appartement?
Il y a eu... c'est-à-dire que j'ai des voisins fantastiques et on peut jouer tout le temps.
Des voisins qui aiment le jazz?
Bah, qui aiment la musique. Alors ça, c'est un petit truc, si vous voulez, que vos voisins supportent mieux la musique. Dès que vous faites un disque, vous lui apportez leur disque. Et donc, ils ont déjà... Ils se disent, ah, il fait des disques, etc. Donc voilà. Ça, c'est juste un tip et un conseil pour les musiciens. Mais oui, j'ai la chance et on peut jouer vraiment tout le temps. Et donc...
Il y a combien de pianos?
J'ai un piano, mais il y a eu une aventure chez moi. C'est mon accordeur, Bastien Herbin, mon accordeur adoré. Qui un jour refaisait un grand Stanway Day, le grand concert. Et il me dit Bar Lloyd, c'est mon surnom dans le milieu du jazz.
Depuis quand d'ailleurs, juste une petite parenthèse sur ce surnom.
C'est depuis que j'avais, avec d'autres musiciens, on avait un collectif, on avait construit un club de jazz à Mâcon. Et en fait, on se levait à 5h de l'après-midi, on jouait tous les soirs jusqu'à 8h du matin. Et à cette époque-là, j'étais féru, et je le suis toujours d'ailleurs, de ce pianiste qui s'appelle McCoy Tyner. Et on écoutait beaucoup Coltrane, le quartet de Coltrane. Et je sais pas, à force de boisson, je ne sais quoi, il y a un moment, il y a ce nom qui est arrivé, qui n'est jamais reparti.
D'accord. Donc là, t'es vraiment Bar Lloyd pour tout le monde.
Pour un certain nombre. pour ceux qui savent cela.
Donc l'appartement, c'est chez Bar Lloyd.
Voilà. Et d'ailleurs, il y a un coffret de 9 disques qui a été enregistré dans cet appartement. Parce que... donc, Bastien, l'accordeur, m'a dit, écoute, je suis en train de refaire un Steinway de concert. C'est quand même le piano qui fait 3 mètres de long, qui fait 600 kilos, quoi.
Ça rentre dans l'appartement parisien.
Ça a été un enfer. Mais c'est rentré. Et puis, il me dit, écoute, moi, je préfère... Ça te dit pas tout... Parce que tous les pianistes viennent chez moi. Et j'aime bien cette idée-là du jazz où on s'échange des idées. Bon, faut être un pianiste un peu cultivé parce que évidemment, si on a 3 accords, ça n'a pas marché, quoi. Donc oui, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de musiciens qui viennent, avec qui on partage, avec qui j'enseigne un peu aussi. Et donc, tout d'un coup, il m'a dit, on va mettre ce piano chez toi. Et donc, tout d'un coup, le piano est arrivé. Et donc, ça a été une tohu-bohu, en fait. Tous les pianistes de Paris voulaient venir essayer passer à la maison, jouer sur un Steinway Day. Et donc, à cette époque-là, je venais de faire un disque qui avait eu d'ailleurs le prix du disque de jazz en 2017, 16 ou 2017, je ne sais plus. Un disque sur Woody Allen qui s'appelle Of My Life, parce que toujours cet amour du cinéma.
Et oui.
Et donc, je travaillais avec Vincent Bessière, qui a toujours son label de jazz, qui s'appelle Jazz and People. Et puis au début, il me dit, écoute, faut qu'on enregistre. Et on voulait faire un disque avec 9-10 pianistes. Et puis, on s'est dit, non, en fait, on va enregistrer un disque par pianiste. Et donc, il y a un coffret qui a eu beaucoup, beaucoup de presse. Et là, c'était une aventure géniale, quoi. C'était genre s'enregistrer tout le temps chez moi. Il y avait Julien Basser, avec qui je travaille toujours, que j'adore, qui venait avec ses micros, et on enregistrait des disques. Donc on a enregistré 9 disques chez moi. Et c'est sorti, et ça s'appelle At Bar Lloyd's. Et c'était une vraie, vraie aventure. Ce qui fait aussi que maintenant, ça a changé beaucoup nos rapports entre pianistes. Parce que souvent, on ne se voyait pas. Et puis là, tout d'un coup, c'était vraiment la maison des pianistes. Et évidemment, moi, ça m'a rendu très heureux. Parce que moi, j'aime beaucoup les pianistes. Et au-delà du piano.
Ah oui, les pianistes aussi.
Ouais, c'est une espèce. Et ce sont des esthètes. Et puis ensuite est arrivé, donc j'ai continué à jouer beaucoup, etc. Ça c'était il y a 3 ans, c'était sorti 3 ans. Mmh. Et puis ensuite il y a eu cette histoire de Covid qui ne vous a pas échappé, bien entendu. Et là avec Luigi Grasso, Yaron Herman et puis un producteur, un homme d'affaires et amoureux d'art, collectionneur d'art, qui s'appelle Peter Schnurr, c'est ici. Et en fait, on s'est dit, on va faire une maison de disques. Et juste avant qu'arrive le Covid, on avait eu cette idée-là. Et on voulait faire plus de CD que des vinyles et du numérique.
Ce qui est aussi dans l'air du temps.
Et puis, j'ai proposé à René Treger, qui est aussi un de mes parents du piano jazz. Parce que lui, il a accompagné Miles Davis, il a accompagné... Enfin, lui, c'est vraiment l'histoire du piano parisien, pour le coup. Là, c'est le tampon du pianiste parisien par excellence. Et donc, il m'a dit, bah oui, on se connaît depuis quelque temps quand même. Et donc, il est venu enregistrer à la maison. Donc, voilà, c'était un autre disque enregistré chez moi, qui est sorti l'an dernier. C'était notre... Et puis...
Donc, sous le label...
Sous le label LP. Ça s'appelle LP345. Parce que c'est... On fait LP, Long Playing. Mmh. Et puis MP3. Donc, c'était MP3. Et au départ, on commençait à faire des disques de 3 titres. Parce que comme on veut payer les musiciens correctement, on s'est dit, tiens, on va faire des... Et vu qu'aujourd'hui, avec le numérique, les gens écoutent un disque, mais jamais vraiment en entier, on s'est dit, on va faire des disques de 3 titres.
Ah oui, donc c'est très, très court finalement.
C'est très court, mais ce qui fait qu'ils viennent d'enregistrer quand même 2 sets. J'ai encore toute la musique. Mais on choisit vraiment la crème de la crème. Et on a fait pareil avec un très très bon ami à moi qui s'appelle Kurt Rosenwinkel, qui est un guitariste de légende aussi, lui. Et qui vient, alors depuis des années aussi, tous les musiciens new-yorkais, enfin beaucoup, quand ils sont à Paris, ils viennent chez moi pour jouer.
Ah oui.
Et on joue, tout le monde, vraiment beaucoup, beaucoup de musiciens passent. David Kikoski passe tout le temps, Kushabadi qui encore. Et là, cette semaine, j'avais Emmett Cohen avec son trio, qui sont voilà. Et enfin, maintenant, c'est assez connu. Il y a mon meilleur ami qui s'appelle Clovis Nicolas qui habite à New York et qui vient souvent aussi. Alexandre Claffis, un jeune contrebassiste très talentueux, mais vraiment tous les New York, beaucoup de New Yorkais sont passés à la maison. Quand Lawrence Lawlesser, ce batteur qui habitait à Paris, il était tout le temps chez moi. Et donc, Kurt Rosenwinkel, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute Kurt, tu viens jouer à Paris, jouer au Duc des Lombards, est-ce que tu veux enregistrer un disque en piano solo? Parce qu'à chaque fois qu'il vient à la maison, il prend pas sa guitare, on fait que du piano. C'est son premier instrument. Donc il m'a dit, ok. Donc il est venu, on a enregistré son disque. Et puis ensuite, il y a eu ce Covid. Alors c'est vrai que ça a été un peu bizarre, parce que tout d'un coup, plus personne passait.
Oui.
Parce que les Américains ne pouvaient plus. Et puis même, donc quand même, après, dès qu'il y a eu les réouvertures, les interconfinements, comme tous les clubs étaient fermés, ben, j'étais le seul club de Paris. Donc on jouait, je ne sais pas, ça devait être 5 soirs par semaine. Et à partir de 19h, tout le monde débarquait écouter des disques. Parce que j'ai beaucoup de disques. Et donc, je n'ai pas beaucoup dormi.
Ah oui, donc là, pendant le Covid, pour écouter du jazz, il fallait venir
ouais.
Ici chez toi.
En live.
On vient d'arriver, hein, Laurent, devant chez toi justement.
Voilà. Et donc c'est une musique, c'est une adresse assez connue de pas mal de musiciens de jazz. Et donc ensuite, et on n'a pas voulu arrêter l'aventure du label. Donc on a demandé à notre ami Alexandre Claffy, qui est vraiment le contrebassiste qui monte en ce moment à New York, de organiser des sessions d'enregistrement. Et donc on a enregistré 4 duos. On a enregistré Johnny O'Neill, qui est un pianiste incroyable, avec Paul Sikivi, D'ailleurs, j'ai la basse de Paul Sekivi sous mon piano. J'ai deux contrebasses chez moi. C'est de Clovis Nicolas et Paul Sekivi quand ils viennent en tournée. Tous les musiciens de New York qui viennent chercher leur basse ici pour aller faire les tournées. Donc, je profite de les avoir aussi.
Donc, t'es vraiment connu même jusqu'à New York.
J'ai habité un petit peu. Puis c'est vrai que comme je joue vraiment cette musique qui est très empreinte de la tradition américaine...
Bien sûr. Il y a ce lien aussi.
Il y a vraiment ce lien. C'est un lien vraiment musical. C'est une musique qui n'a pas été abandonnée ici et là-bas et d'ailleurs qui revient vraiment beaucoup ici. Enfin, c'est pas forcément cette musique, mais c'est un état d'esprit.
C'est
être précis quand on joue. Et swinguer le plus possible. Et donc, on a enregistré aussi Kevin Hayes avec Jotun Silberstein. On a enregistré une jeune saxophoniste incroyable qui s'appelle Nicole Glover avec Alexander Claffy. Et on a enregistré deux amis de très longue date, David Kikowski et Peter Bernstein. Et puis, il s'est trouvé qu'on a eu l'occasion... Claffy m'a appelé un soir, un vendredi soir, je me souviens, à 23h30, et il m'a dit « Barloyd, il y a un pianiste vraiment incroyable que tu connais, vous ne connaissez pas. » Et il s'appelle... Micah Thomas. Et donc, je lui ai dit, OK, écoute, va pour trois titres. Donc, il book, moi, c'était minuit ici, il book le studio le dimanche matin, parce qu'il repartait à cause du confinement dans l'Ohio. Donc, ça se passe à New York, à Brooklyn. Et là, c'est un jeune homme de 23 ans. Et c'était assez génial parce qu'on pouvait écouter l'enregistrement en streaming. C'est-à-dire, pendant qu'ils enregistraient, il y avait Yaron qui était à Tel Aviv, moi j'étais à Paris, Luigi maintenant, Grasso, qui est un des plus grands saxophonistes alto, faut quand même le dire, habite à Hambourg, il fait partie du big band NDR, et il vient d'enregistrer un disque dont on aura l'occasion de vous parler aussi. Et Peter Schnurr, notre autre associé, qui était à Vienne. Donc et puis Claffy qui était notre assistant à Brooklyn pendant que tous les autres enregistraient, en l'occurrence ce jeune homme. Et là on lui a demandé trois titres et il commence et c'est que des premières prises, il en met 15 et là on le croit pas. Genre qu'est-ce qui se passe? Avec Yaron on s'envoyait des textos genre mais qu'est-ce que c'est? Et donc pendant la séance on a dealé avec Claffy le fait qu'il fasse un album entier. Et donc je viens de recevoir les disques.
Donc ça, c'est vraiment l'actualité, là.
Voilà, et on sort ce disque-là le 15 septembre prochain. Enfin, moi, depuis Brad Meldo, je n'avais pas vu ça.
Ah oui, d'accord. Bah, dis donc, ça nous donne envie. Hein.
C'est hallucinant. Et donc, moi, j'étais sur mon canapé en train de... Enfin, waouh, ok. D'accord. Mais, donc, voilà. Et donc, là, voilà, c'est un peu... des choses que je pouvais vous dire ce soir.
Alors, une dernière chose quand même, tu disais que tu voulais vraiment rester à Paris, que tu aimais cet esprit parisien aussi de la musique, et puis Paris aussi de manière plus générale. Pourquoi en fait? Qu'est-ce qui t'attire? Qu'est-ce qui te tient ici?
J'ai habité un peu à New York, j'ai habité pas mal à Los Angeles, mais pour des raisons qui n'étaient pas musicales, des raisons amoureuses, enfin autre chose.
C'est une bonne raison.
C'est aussi une très bonne raison. Et puis à chaque fois que je reviens à Paris, je suis originaire du Puy-en-Velay. Et quand je devais avoir 10 ans, j'ai vu les 400 coups de François Truffaut. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Il faut que j'habite Paris. Et je m'émerveille tous les jours quand je suis à Paris. Et c'est ma ville et je ne la quitterai plus. Donc j'aime faire des longues marches et c'est une ville qui m'inspire. Moi, je pourrais pas jouer du jazz à la campagne. J'aime pas trop la campagne, personnellement. J'en viens et je suis heureux de retourner voir mes parents, mais j'ai besoin de cette énergie urbaine. Et même si je sors pas de chez moi, je la sens, cette énergie urbaine, et elle est nécessaire à l'art que je pratique.
Alors, on va se quitter ici, Laurent, puisqu'on, ça y est, on est arrivé chez toi.
Donc, cool, merci.
C'est quand même bien de t'avoir ramené, non? Comme ça.
Écoutez, je pense qu'il y a plein d'artistes qui vont adorer faire ces interviews avec vous.
Est-ce que je peux te demander si, voilà, pour conclure l'émission, quel titre on peut mettre juste après, là? Est-ce que tu as une chanson ou un titre que tu aimerais qu'on passe quand on va diffuser l'émission après cette interview?
Ah, good question. On va rendre hommage à mon maître Barry Harris qui est parti récemment. Et c'est une chanson qu'il a composée, qui est sur un disque qui a été mon disque de chevet, qu'il l'a encore. J'écoutais ce disque tout le temps avant d'aller jouer, ça me mettait dans le son. Et ça s'appelle Lolita, et c'est sur un disque qu'il a enregistré à San Francisco, qui s'appelle Live at the Jazz Workshop. Voilà.
Alors on va se quitter en l'écoutant. Merci Laurent, et très bonne nuit.
Merci beaucoup.
Et à très bientôt.
À très bientôt. Merci.